RCF.
Bonjour à tous, bonjour Alexis.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous.
RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardenne, c'est classique, c'est le 18-19. Pendant ces vacances de Toussaint, nous sommes toujours là.
Effectivement, et si on veut aller plus loin, on peut même dire RCF Champagne-Ardenne en DAB+, Jean-Pierre Benoît, pour ceux qui ont le poste dans leur auto ou dans leur maison, mais ça se fait encore assez rare.
Alors, au sommaire de notre émission, on retrouve notre chroniqueur du lundi.
Claude Ruiz, qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Claude Ruiz, quel sera le sujet du jour ?
Alors le sujet du jour, c'est vers une désoccidentalisation du monde. Un mot difficile à dire, mais un concept difficile aussi à appréhender.
On va vous le présenter à nos auditeurs d'ici quelques secondes.
Pendant les vacances, on a des visites. On ne l'a plus toujours en direct en ce moment, sauf le vendredi avec vous pour questions d'actualité. Le professeur Jacques Cohen vient de nous rejoindre. C'est avec beaucoup de plaisir que nous l'accueillons et que nous espérons que dans les jours qui viennent, il viendra nous dire un petit mot sur l'actualité internationale. C'est entendu, Jacques. Vous êtes un peu loin pour nous parler, mais c'est noté.
Voilà, parmi les rendez-vous que vous annoncez, Jean-Pierre, on va en donner aussi quelques-uns pour le magazine de ce soir, avec d'ici quelques minutes un maire qui sera à votre micro. C'est un petit peu un best-of des maires que l'on va retrouver tout au long de cette période de vacances.
Pendant les vacances, et nous retrouvons le premier maire que nous avions interrogé de l'année. Il s'agit de Jean-Marie Houdard, il est maire de Poitéron dans le département des Ardennes.
Un autre invité à votre micro ce soir, Jean-Pierre Benoît, Mathieu Mercier, qui est rédacteur en chef de France 3 Champagne-Ardennes.
Absolument, Mathieu Mercier revient sur les nouveaux programmes de France 3 Champagne-Ardennes avec le journal régional à 19h15 au lieu de 19h, mais avec un programme aussi national et international.
Et puis on ira faire un tour dans le territoire en deuxième partie d'émission, notamment du côté de Sainte-Marie-au-Lac avec une exposition de peinture Les Oiseaux du Lac présentée par la présidente de l'association des Amis de l'Église Sainte-Marie-du-Lac, Monique Pelletier, qui sera avec nous. Et puis on ira également du côté de Larzicourt pour présenter l'association Le Passage avec un spectacle de théâtre. On a un petit peu de temps pour prendre le rendez-vous, c'est le vendredi 3 novembre.
Vendredi 3 novembre. C'est noté dans notre agenda, Alexis.
Avec l'association de théâtre, qui notamment à laquelle participe Didier Noël, on en parlera en fin d'émission. 18h13, on se tourne vers Claude Ruiz pour regarder sur le monde. Claude, bonjour.
Bonjour.
Vers une désoccidentalisation du monde. Les analystes des relations internationales évoquent de plus en plus cette désoccidentalisation du monde. Comment définir ce processus, Claude ?
En effet, le tournant dans les réflexions sur l'ordre géopolitique, c'est un tournant qui provient au début du conflit russo-ukrainien. Hein. Vous le savez, c'est à partir de ce moment-là qu'on dit les choses changent au niveau de la planète. Donc c'est en février 2022. En réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Ce conflit de haute intensité, il a surtout mis en évidence des dynamiques, bien entendu, qui étaient à l'œuvre depuis de nombreuses années. C'est pas apparu comme ça du jour au lendemain. Et c'est la remise en cause, si vous voulez, principalement, pour simplifier, de l'ordre bipolaire organisé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par la confrontation, vous le savez, entre les États-Unis et l'URSS, qui avait composé en réalité deux très grandes forces, en plus nucléaires, qui neutralisaient un petit peu. On ne pouvait pas se battre sur Terre sans avoir l'autorisation de l'un ou de l'autre pour parler simplement. Or, les données ont changé. Il y a un déclin relatif des États-Unis en termes d'intervention, au moins, même si c'est pas sur le plan économique. La montée, au contraire, de puissances qui étaient tout à fait en bas de l'échelle. En 1950, on n'en parlait pas. C'est comme la Chine, par exemple, qui a grimpé très, très vite. Et puis, d'une partie des États de l'espace asiatique. Il y a aussi l'affirmation des États du Sud qui jouent un nouveau rôle. L'Arabie saoudite parce qu'elle est très riche, l'Iran parce que il représente 90 millions de personnes, le Brésil parce qu'il a une stature au niveau de l'Amérique latine. Donc vous le voyez, tout le monde apparaît. Ça se traduit même par des associations comme les BRICS, vous savez, Brésil, Russie, donc Inde, Chine et Afrique du Sud. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus sensible.
On peut donc dire, Claude Ruiz, que l'on a affaire à une redistribution des cartes dans le cadre d'une mondialisation rapide.
Oui, en effet, cette mondialisation, voire globalisation, s'est mise en place, mais elle est parsemée de crises, en réalité. Et c'est pour ça qu'on est, je dirais, pas dans de très bonnes, en très bonne forme et qu'on s'inquiète un peu de ce qui se passe dans le monde. D'abord, il y a, sur le plan économique, on s'en aperçoit peut-être pas comme ça, mais dans de très nombreux États, il y a l'endettement à la fois des États, le problème, du financement, en fin de compte, de l'économie mondiale, et puis un endettement aussi des ménages avec les différentes crises financières. Il y a un renforcement des inégalités sociales et des formes de précarité. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, vous suivez l'actualité comme journaliste. Donc,
essaye de rester branché, j'allais dire.
Voilà, on retrouve ça un petit peu partout, quel que soit le pays. On peut retrouver ces facteurs qui apparaissent plus ou moins marqués. S'y ajoute la remise en cause de la démocratie comme cadre de référence politique. On s'aperçoit que la plupart du temps, dans de très nombreux pays, il y a, on essaye de négocier avec la démocratie, de la laisser de côté, de considérer qu'il faut trouver de nouvelles règles.
Les crises du système sont donc généralisées par rapport à ce que vous étiez en train de nous dire, Claude Ruiz, on le retrouve un petit peu partout finalement.
Oui, ces crises, ce sont ces dynamiques que j'ai citées au départ qui se mettent en place, qui apparaissent, dont on entend parler tous les jours. Elles sont accentuées, elles ont été accentuées en particulier, vous le savez, par la pandémie du Covid, qui a fragmenté, qui a fait qu'il y a des pays qui ont pu prendre leurs aises, d'autres s'imposer au niveau régional pendant que la crise courait. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en évidence, avec de multiples conséquences sanitaires, vous le savez, économiques, sociales, politiques, que l'on retrouve du fait de cette pandémie. Et de plus, même avant le Covid, il faut bien voir que sur les 7 milliards 900 millions d'habitants sur Terre, il y avait 1 milliard à peu près de personnes qui vivaient dans des zones déjà d'affrontements militaires, ce qu'on appelle des guerres localisées, qui s'interrompent, qui reprennent 3 mois ou 3 ans après. Donc on est bien dans quelque chose qui était quand même très, je dirais, très fragile. Et bien entendu, dans ce cadre-là, ça se traduit, et la fragmentation liée à la pandémie l'accentue, sans qu'il y ait véritablement un chef. Il n'y a pas de hiérarchisation. Le monde devient, on dit, apolaire, parce qu'il n'y a même pas de pôle. Donc là, c'est pas unipolaire ou multipolaire, c'est apolaire. On ne sait pas qui, en fin de compte, a les moyens de redresser un petit peu, de redresser la barre. Et la guerre russo-ukrainienne, israélo-palestinienne, sont que, j'allais dire, presque des épiphénomènes de cet ensemble.
Cela veut-il dire que le système international, dans sa façon globale, est en crise ?
Oui, je crois qu'on peut le penser. Il suffit de regarder un petit peu, et vous en êtes les vecteurs aussi, l'agitation, sur le plan information, on le voit, l'agitation diplomatique, ça reste très confus. On ne sait pas qui, en fin de compte, a les moyens de faire avancer un certain nombre de solutions. C'est l'exacerbation des rivalités de puissance, on le met en évidence pratiquement tous les jours. La montée des, ce qu'on pourrait appeler des impérialismes locaux ou régionaux. On voit, par exemple, le Caucase, par exemple, vous voyez, le Haut-Karabakh, c'est un petit exemple. Dans un coin, on essaye d'avancer. Donc, ça relance d'anciennes cicatrices, c'est pas très bon. Et puis, il y a des partenariats, je dirais, sécuritaires qui ont tendance à se renforcer. Et certains même disent, la confrontation finale, c'est en gros les États-Unis contre la Chine. Mais en attendant, pour l'instant, on essaye de prendre ses marques. Donc, toutes ces dynamiques favorise un petit peu la remilitarisation un petit peu du monde, les tensions renforcées régionalement, en particulier par de très nombreux désastres naturels, l'insécurité alimentaire, tout ceci est quand même très présent et ressort à la surface.
Ce processus de désoccidentalisation veut-il dire qu'on met en place de nouvelles règles aussi, Claude Ruiz ?
Alors, je ne sais pas si on met en place de nouvelles règles, mais on en a besoin, vous avez raison, je crois que c'est ça. On a besoin d'une hiérarchie d'un ordre international. Alors, dominé par qui ? Je ne vais pas m'avancer, je vais dire multipolaire. Il faut que chacun ait un petit peu la parole. Mais vous le voyez, actuellement, c'est l'Occident qui est remis en cause. Il y a de différentes approches au niveau international, mais c'est souvent l'Occident qui est critiqué. Alors, quand on regarde les visions internationales des autres pays, l'Inde, elle est pour, j'allais dire, le multi-alignement. Elle change un petit peu de route en fonction des problèmes. L'Amérique du Sud, c'est le non-alignement. Il suffit de regarder les pays. Ils s'intéressent peu, en fin de compte, au reste du monde, ce qu'ils appellent le non-alignement actif. Et donc, il y a la nécessité de repenser, de redéfinir. Et je pense que l'Europe doit aussi apporter des idées pour rebâtir quelque chose dans lequel on puisse vivre ensemble. Alors, je dirais tout le monde au travail.
Eh bien, merci Claude Ruiz de nous avoir informés sur cette désoccidentalisation du monde en cours. À très bientôt.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h21 sur RCF en région pendant cette période de vacances scolaires à 18h20 environ, hein, 18h21 on vient de le dire, on retrouve un best-of des maires qui se sont succédés à notre antenne depuis la rentrée de septembre. Alors quand on dit un best-of, il n'y en a pas de meilleur que d'autres, mais c'est vrai qu'il y en a qu'on a interrogé il y a déjà un petit moment et c'est l'occasion de les retrouver. Ce lundi, on est avec Jean-Marie Houdard de Poitéron qui est avec vous, Jean-Pierre.
Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est l'occasion de connaître votre commune. La commune de Poitéron, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, la situer, nous présenter votre commune?
Très rapidement, c'est un bourg rural, donc dans les Ardennes, au cœur des Ardennes. Il y a 900 habitants, un peu plus de 900 aujourd'hui, c'est à 18 km de Charleville-Mézières, donc au sein d'une communauté de communes qui s'appelle les Crêtes-Pradonnaises, donc territoire rural. Et je suis maire depuis 2014 de cette commune.
Alors, on reverra votre commune, mais vous êtes maire et quelles ont été vos motivations pour être maire? Est-ce qu'on peut dire que c'était dans votre ADN?
Absolument pas. Absolument pas. Moi, je suis plutôt de culture associative. Hein. J'ai beaucoup milité dans des associations au niveau du territoire des Crêtes-Pradonnaises, justement. Moi, je voyais l'engagement comme élu, et pas forcément maire au départ, d'ailleurs, pour avoir un peu une action aussi intercommunale. Puisque l'intercom paraissait une échelle assez intéressante pour dépasser la simple gestion communale et avoir une vraie dynamique de projet. Donc quand on m'a proposé de faire partie de l'équipe municipale, évidemment j'ai dit oui, et une condition c'est de pouvoir travailler à l'échelle de l'interco, c'est-à-dire d'avoir une place d'adjoint pour siéger à l'interco. Ben, les choses ont fait que quelques temps avant les élections en 2014, le maire du mandat d'avant qui conduisait l'équipe est venu me voir en me disant ben, finalement je ne me présente pas pour de multiples raisons et je n'en vois qu'un qui est capable de prendre la place. Et c'est comme ça que je suis arrivé maire, sans avoir été conseiller municipal auparavant d'ailleurs.
Alors revenons un peu sur votre commune, Jean-Marie Houdard. Comment peut-on dire la caractériser, ses activités, ses habitants? Des agriculteurs, des gens qui travaillent à Charleville, des gens qui sont sur place, des retraités?
Alors, des gens qui travaillent un peu partout, sur Charleville, mais aussi sur Reims ou Rethel. Alors c'est une commune boursante, ça veut dire qu'on y retrouve l'ensemble des commerces et des services qui sont nécessaires à la vie quotidienne. Hein. Il y a bon, boulangerie, boucherie, épicerie, il y a la poste, il y a les services médicaux, dentistes, médecins, infirmières, etc., etc. En matière d'enseignement, on a le regroupement scolaire de primaire qui a ses bâtiments sur la commune et on a le CFA, bâtiment travaux publics, qui est implanté aussi sur la commune. En matière de mobilité, il y a une halte ferroviaire, donc avec des trains très très réguliers. Il y en a tout confondu 35 par jour et un échangeur autoroutier, donc le village est complètement accessible et ouvert vers l'extérieur. On est engagé dans la préservation de l'environnement et de la biodiversité, donc on a pas mal de labels et d'engagements autour des villages fleuris, communes nature, trames vertes et bleues, enfin j'en oublie, mais il y a plein de choses, et des plans climat communaux.
Alors, c'est vrai qu'on a entendu, et ça c'est en quelques secondes, hein, monsieur le maire, Jean-Marie Houdard, qu'il y a des maires qui ne voulaient pas y retourner dans les élections, parce qu'ils s'interrogeaient face aux responsabilités qui sont les leurs.
Oui, alors, bon, c'est vrai que nos compatriotes, ils s'imaginent un peu le maire avec un pouvoir quasi divin, je vais dire, et donc responsable de tout ce qui peut arriver. En fait, il faut essayer de faire comprendre, et on y arrive, que, bon, bien sûr, on a une autorité qui est donnée par la loi, une légitimité par les urnes, mais ça ne fait pas de nous des êtres exceptionnels. Donc, on est plutôt...
Je me permets de vous interrompre, vous pouvez être gêné, dérangé, on peut venir vous solliciter, oui. Vous voyez, vous êtes quand même sur la brèche, comme on dit. Hein, et j'en profite pour vous demander, est-ce que vous êtes encore le patron chez vous quand on est maire? Parce qu'il y a la communauté de communes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes favorable aux communautés de communes?
Alors complètement, et donc du coup ma réponse elle est un peu biaisée, hein. fait que je suis à la communauté de communes. Alors, on a la chance, je vais parler pour notre communauté de communes, d'être sur une communauté de communes rurale où il n'y a pas de ville. Donc, plutôt un réseau de villages et de bourgs-centres. Donc, ça évite un peu la ville qui semble capter tous les dispositifs. Ceci dit, même chez nous, il y a ce débat sur l'équité de traitement entre les bourgs-centres et les petites communes. Parce que bah, les équipements un peu structurants, je sais pas, on va parler de salle des fêtes, de gymnase, de choses comme ça, de maisons médicales, sont forcément implantés dans les bourgs-centres où il y a déjà d'autres services. Donc c'est des fois mal ressorti par les petites communes. Et moi, la question, c'est de savoir comment, au travers des outils comme le plan local d'urbanisme ou le travail sur les mobilités, on puisse s'assurer à un développement vraiment équilibré du territoire.
Alors, qu'est-ce que vous demandent vos administrés, les demandes les plus nombreuses, les requêtes, les questions?
Alors, pour commencer, je vous dis, on a un secrétariat permanent, ce qui permet déjà d'aborder beaucoup de réponses rapides la plupart du temps au travers du secrétaire. Et ça permet aussi d'atténuer les réactions des fois un peu épidermiques. Voilà, dès qu'il y a une ou deux journées qui sont passées, c'est plus apaisé. Alors les demandes les plus nombreuses, ben, c'est plutôt des renseignements administratifs et des questions sur l'avancement des projets en cours et des opérations. Il y a aussi des remontées d'informations sur l'état des équipements communaux, par exemple, ou sur l'état des routes. Et puis, ben, faut pas les oublier, il y a aussi les perpétuels mécontents, mais finalement, ils sont pas si nombreux. Hein, et le plus souvent, ils sont porteurs de leur intérêt individuel plutôt que l'intérêt général.
Alors, justement, les projets en cours, ça c'est important, parce qu'il nous reste 3 minutes, Jean-Marie Houdard. Quels sont ces projets à plus long terme ou à court terme avec votre conseil municipal?
Alors, on a aussi, pour introduire le truc, les projets ne sont pas tombés de rien. On a lancé 2 grands moments de démocratie participative quand je suis arrivé. Une approche environnementale de l'urbanisme, une démarche village durable. Et il y a 4 pistes d'amélioration qui sont ressorties à faire pour le village. Je vais les citer quand même. Mieux concerner les habitants et l'économie locale. Donc, on a fait un marché, par exemple, très difficile à fonctionner, mais qui existe. Renforcer l'implication citoyenne, donc on a fait une association d'animation, c'est encore en cours et ça fonctionne bien. Développer des espaces récréatifs, donc c'est en cours aussi avec un projet de tiers-lieu. Et proposer un habitat adapté au vieillissement de la population, on a fait un béguinage avec la communauté de communes, qui aujourd'hui est compris avec des files d'attente.
Et d'ailleurs, je vous interromps, Jean-Marie Houdard, tout ne sera pas dit, mais justement, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver un jour, prochainement. C'est qu'à la fin du mois de septembre, vous avez déjà un grand rendez-vous à nous annoncer.
Oui, alors à la fin du mois de septembre, on organise la journée des possibles et du développement durable, c'est les 22 et 23 septembre. Alors le vendredi 22 septembre à 19h, à la médiathèque, on a une conférence de débat qui est intitulée « Faune sauvage versus A34, ça passe ou ça casse ?» par une doctorante de l'Université de Reims et du CERF qui fait des recherches là-dessus. Et le samedi 23, toute la journée, avec des stands et des animations autour de la nature, de l'énergie et de la mobilité. Et on a une opération qu'on reconduit tous les ans déjà depuis que je suis là, c'est l'opération Adopte une poule, où pour une poule achetée, on en offre une qui permet de réduire les déchets dans les ménages.
Mais ça, c'est formidable, ça. Il y a peut-être des auditeurs qui vont acheter des poules hein, chez vous.
Pas de problème, il faut attendre le 23.
Alors, Jean-Marie Houdard, ça va très vite, il nous reste très peu de temps. Vous êtes un maire heureux, vous arrivez à concilier tout ça? Il nous reste 30 secondes.
Eh ben, en 30 secondes, oui, je dirais plutôt heureux, dans la mesure où je suis au service d'un projet, que les échanges, tout ça, ça me plaît bien. La richesse de la participation, c'est quand même intéressant. Et puis le fait d'être dans une dynamique, d'être sur une commune un peu dynamique aussi, c'est très porteur en fait.
Merci Jean-Marie Houdard. Et vous voyez que cette émission, Votre maire nous parle, rend la parole aux auditeurs. Vous pouvez éventuellement poser des questions à Jean-Marie Houdard. Son numéro de portable, 06 85 08 26 59. Je répète, 06 85 08 26 59. Au revoir Jean-Marie Houdard.
Au revoir.
À bientôt. Et toute la semaine, on aura le plaisir, après Jean-Marie Houdard, de retrouver les maires que nous avons interrogés il y a quelques semaines. En attendant, il est pratiquement 18h30, c'est l'heure de retrouver le journal régional qui nous est présenté ce soir, comme tous les autres soirs de la semaine, par Alexis Claudrette qui est en direct avec nous.
Les titres de ce lundi 23 octobre, au revoir Citura, bonjour Grand Reims Mobilité. Au 1er janvier 2024, une nouvelle offre de transport et de mobilité sera proposée au Grand Rémois. Présentation. À Saint-Dizier, la Toussaint des enfants se fête avec les commerçants. Reportage.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
143 communes desservies, 200 km de lignes nouvelles, 182 véhicules, dont 99 renouvelés et propres. Des émissions de CO2 divisées par 3. Voilà quelques chiffres clés du contrat de concession pour l'exploitation des services de transport et de mobilité signé vendredi matin entre le Grand Reims et Transdev. Une nouvelle offre qui devrait mieux répondre aux attentes des Grands Rémois. Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims.
Ce qui est certain, c'est que nous sommes partis du projet de territoire au cours duquel nous avions interrogé nos concitoyens du Grand Reims. Et la première demande, c'était une offre de transport, et notamment dans la ruralité, puisqu'il y a bien sûr 15 gares TER, mais il n'y avait pas d'autres éléments. Et là, l'idée, c'est précisément de permettre à chaque habitant d'être à moins d'un kilomètre d'une solution de transport. Alors, suivant l'endroit, évidemment, on est plus ou moins près. À Reims, on parle en centaines de mètres. Quand on est dans le Tardenois, effectivement, on parle d'un kilomètre, ou égard à la taille des villages concernés. Mais l'idée, c'est qu'après, le transport à la demande vous permette d'aller, par exemple, vers la ligne express, où là, vous pouvez aller à Reims. Nous l'avons vu, nous avons mis 25 minutes pour venir depuis la place Aristide-Briand à Pomac-le-Bazancourt. Donc l'idée, c'est à la fois d'être compétitif avec ces lignes express en termes de temps, mais c'est aussi de permettre aux habitants de diviser leur émission carbone, puisque, évidemment, on est dans un bus qui émet moins et qui est nettement moins émissif, en plus que les voitures individuelles.
91% des élus du Grand Reims ont autorisé Catherine Vautrin a signé ce contrat, un chiffre qui plus que jamais oblige la communauté urbaine et Transdev à combler ses besoins. Le PDG de Transdev, Thierry Mallet, nous explique quelles solutions sont mises en place.
Il y a le réseau lui-même qui va être beaucoup plus attractif puisqu'il va beaucoup plus loin sur le territoire et il est beaucoup plus près des habitants. Il va y avoir des actions, des nouveaux outils qui vont permettre de rendre son accès plus facile. Une nouvelle billettique, la capacité de pouvoir régler avec simplement une carte de crédit, une nouvelle application, une nouvelle maison de la mobilité sur le parvis de la gare qui va montrer effectivement l'engagement de la collectivité pour le développement durable, qui va être un outil de communication, des outils de communication comme une agence mobile qui va aller sur le terrain au plus près des habitants. Donc c'est cet ensemble qui va nous permettre effectivement l'attractivité du réseau, la communication, une nouvelle billettique qui vont rendre plus facile l'accès et qui vont attirer les gens vers le réseau.
La signature de ce contrat a aussi été l'occasion de dévoiler la nouvelle identité de ce réseau. Au revoir Citura au 1er janvier 2024. Bonjour, Grand Reims Mobilité. Depuis le samedi 12 octobre, à l'initiative de l'École de l'Assomption et du Collège Lycée Estique de Saint-Dizier, avec le soutien de la paroisse Saint-Dizier, la Toussaint des enfants 2023 se fête avec les commerçants de Saint-Dizier. Les précisions de l'abbé Loïc Declos, curé de la paroisse de Saint-Dizier.
Voilà que 12 saints se sont cachés dans les devantures des commerçants bragards. À l'origine, ce sont des paroissiens qui, à la rentrée scolaire de septembre, ont proposé ce jeu mis au point pendant l'été pour inviter les enfants, à partir de 7 ans à peu près, et jeunes adolescents, à découvrir 12 figures de saints d'hier et d'aujourd'hui. Et donc, sous cette manière ludique de parcourir un peu les rues de Saint-Dizier et d'observer les vitrines pour retrouver donc ces 12 saints. On a mis au point un livret avec 12 petites notices biographiques de ces saints, adaptées à la lecture des enfants, bien sûr. Et donc, le projet derrière cela, c'est bien que les enfants puissent découvrir ces figures historiques qui sont là dans notre pays, dans nos cœurs, dans notre spiritualité, mais aussi, bien sûr, de les inviter à s'identifier à eux et pourquoi pas eux-mêmes à vouloir devenir des saints.
Et tout le monde est appelé à devenir saint.
Exactement, voilà. Et donc je crois que c'est un peu ça. La dernière question dans le livret qui leur est donnée, c'est « Et toi, veux-tu faire partie de leur team ? Veux-tu faire partie de leur équipe ? Toi aussi ?» Donc c'est vraiment la question qui leur est posée. Une fois que le jeune a repéré ce saint, il entre, il demande au commerçant un sticker qui va être collé donc dans son livret. Pour gagner le jeu, l'enfant doit avoir récupéré les 12 stickers qu'il a collés dans son livret.
Des propos recueillis par Gérald Gaillet de RCF Cœur de Champagne. Les enfants dès l'âge de 7 ans et les ados de Saint-Dizier ont jusqu'au mardi 31 octobre pour trouver les 12 saints dans les vitrines des commerçants de Saint-Dizier. Une récompense sera remise à chaque enfant pour un livret rendu lors de la messe de la fête de la Toussaint le mercredi 1er novembre à 11h en l'église Notre-Dame de Saint-Dizier. Avant d'ouvrir la page sport, Jean-Pierre, vous vouliez compléter une information.
Une information diocésaine qui concerne le diocèse de Reims mais aussi le diocèse de Chalon. Ils reviennent en ce moment du TGV, ils arrivent, ceux qui ont participé à Lourdes, à ce qu'on appelle kérigma. Le kérigme, c'est le cœur du message biblique, du message chrétien, dans cette période d'évangélisation à laquelle nous appelait le pape François. C'est donc le retour, il y a une trentaine de diocésains de Reims, il y en a quelques dizaines également de Chalon, on aura l'occasion d'y revenir.
Sport, en Ligue Elite de roller hockey, Rethel s'est imposé 11-1 contre Bordeaux, mais la rencontre de samedi était particulière. Maxime Bettmal.
Ce samedi 21 octobre 2023 restera dans l'histoire du club de roller hockey de Rethel. Certes, il y avait une rencontre sportive en championnat face à Bordeaux, mais le principal était ailleurs. Le club rendait hommage à deux membres décédés ces derniers jours, Dominique Martin, secrétaire et membre du conseil d'administration, et Eric Ulpa, président du club depuis 2020. Ce dernier avait pris la succession de Didier Lefebvre, qui avait créé ce club. Deux hommes très importants et un moment forcément lourd en émotion, comme le confirme le désormais président par intérim du club, Benoît Alberge.
C'est vrai que de prendre coup sur coup le décès de Dominique, qui était notre secrétaire du conseil d'administration et qui était au club depuis ses débuts, tirait malheureusement à peine les obsèques, on perd Eric derrière, notre président. Donc voilà, des moments très difficiles à vivre. Le plus difficile, c'est pas nous, c'est les familles. Nous, ça nous touche forcément parce que c'est des êtres proches, ça peut être des amis pour certains. Et voilà, ça a été une période compliquée et on a mis un genou à terre, mais on est là. Et on se relève et on remet la machine en route pour eux, pour la mémoire de tous ceux qu'on a déjà perdus. Et on se doit de répondre présent et de continuer. Les diables ont écrit une histoire, elle a commencé il y a 25 ans et elle n'est pas prête de se finir.
Il y avait l'hommage, mais il y avait aussi le sportif. Certes, moins important, les Diables ont quand même assuré avec une victoire contre Bordeaux, 11-1. Les Diables sont à 5 victoires en 5 matchs cette saison. Ils confirment donc leur place de leader. Un match qu'il fallait prendre avec sérieux malgré le contexte. Le job plutôt bien réussi, comme nous le confirme Lucas Schneider.
Bah oui, c'est sûr. C'était un peu compliqué, surtout en début de période. Puis je pense qu'un peu avant le match, le fait d'attendre beaucoup, ce qui est normal, parce qu'il fallait faire ce qu'il y avait à faire, ça fait que pour se mettre en route, c'est compliqué. C'est compliqué, mais une fois que c'était lancé, à la deuxième période, franchement, le travail il a été fait. Après, je dirais pas qu'ils sont forcément en dessous. Ils ne déméritent pas à Bordeaux, parce qu'ils viennent quand même de loin, ils ont beaucoup de routes. Je pense qu'ils ont fait leur part du travail. Puis nous, on a fait la nôtre, donc on verra. Mais si on veut aller plus loin, il faut être encore au-dessus. Nous, on nous a donné une consigne, c'est de faire ce qu'on avait à faire sur le terrain, en fait. Donc dans nos têtes, même si c'est compliqué, mais c'est pas pour nous que c'est le plus compliqué, c'est pour les proches. Donc nous, on va dire que c'est beaucoup moins dur pour nous que pour les proches. Donc nous, on a un objectif, on essaye de le tenir, puis on est là pour ça, on est là pour gagner, puis on fera ce qu'on a à faire et on essaiera de faire ce qu'on a à faire.
Mais au-delà de toute considération sportive, cette victoire sert surtout donc d'hommage et de point final d'une soirée très riche en émotions. Un hommage que les Diables voudraient confirmer et voudraient perdurer dans le temps jusqu'à la fin de saison. Aller au bout et pourquoi pas aller chercher un titre en honneur de Dominique Martin et Eric Ulpa, tel est le vœu du club ardennais.
Beaucoup d'émotions à Rethel samedi soir. Au même moment, il y avait de l'amertume à la Guinguette Arena de Charleville-Mézières où les Flammes ont dominé Landerneau 78-67 à l'occasion de la 5e journée de Ligue féminine de basket. Mais là encore, l'essentiel était ailleurs. La meneuse recrutée cet été, Colline Franchelin, était au milieu du parquet pour dire au revoir au public ardennais avant d'aller se faire soigner à Lyon. Victime d'une rupture des ligaments croisés en Eurocoupe mercredi, sa saison est terminée. En Pro B, vendredi soir, le Champagne Basket a concédé un deuxième revers consécutif en championnat, 76-71 à Denain. Entrée en Liga de volley réussie pour Chaumont, vainqueur de Saint-Nazaire 3-7-0. En football, le Stade de Reims a été accroché 1-0 à Toulouse hier après-midi. Les Rémois sont 6e de Ligue 1. En Ligue 2, 3 avance lentement en concédant le nul 0-0 face à Concarneau. Avec seulement 9 unités après 11 journées, les Troyens reculent à la 17e place en DA Arkema, la première division de football féminin. Le Stade de Reims s'est incliné face à l'Olympique Lyonnais, c'était hier soir. 5-1 au stade Auguste Delaune.
Deux petites questions, Alexis. Il va y avoir un magazine sportif, le Sportimac, bientôt.
Le Sportiplex Le Mac, ça sera cette semaine. Effectivement, ne me demandez pas mon invité, Jean-Pierre, je ne l'ai pas en tête.
Mais c'est pas David Calais ?
C'est David. Non, David Calas, c'est la semaine dernière, Jean-Pierre.
Ah, d'accord. C'est un autre invité.
C'est un autre invité.
Ce n'est pas non plus Monsieur Doguet.
Yves Doguet, ça sera un petit peu plus tard.
Un petit peu plus tard.
Ah ben voilà. Vous savez, quand on anticipe les émissions, Jean-Pierre, on ne sait plus où on est dans le calendrier.
Et moi, qui ne suis pas connaisseur, j'ai entendu dire que Reims-Toulouse, il y avait eu 3 fois la balle qui avait tapé le poteau.
Ouais, c'était un sacré match, effectivement. Notamment, les Rémois peuvent avoir des regrets en première période, puisqu'effectivement, ils ont touché par 3 fois le poteau, notamment sur une très belle frappe de Younia Ito, un retourné de Younis Abdelhamid, qui est défenseur central, capitaine, qu'on n'attend pas aux avant-postes, qui tente ce geste acrobatique, ça tape le poteau, et puis sur une déviation malheureuse d'un défenseur toulousain qui a failli tromper son propre gardien, le Stade de Reims aurait pu ouvrir le score bien plus tôt. Malheureusement, il a fallu attendre la deuxième période pour voir les Rémois prendre l'avantage, mais quelques secondes, quelques minutes après, les Toulousains ont bien réagi. Finalement, un but partout, un match qui laisse un petit peu des regrets quand même pour les Rémois, mais c'est quand même un bon point de prix à l'extérieur pour le Stade de Reims, Jean-Pierre. 18h40, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
L'association Les Amis de l'Église de Sainte-Marie-du-Lac organise dans l'église paroissiale du village dédiée à Notre-Dame de l'Assomption une exposition de peinture sur le thème des oiseaux du lac du 28 octobre au 1er novembre. Temps fort de cette manifestation, mardi 31 octobre à 14h30, Gérard Rollin, l'un des ornithologues du lac du Der-Chantecoq, donnera une conférence sur la disparition des oiseaux de nos campagnes. Précision avec Monique Pelletier, présidente de l'association Les Amis de l'Église de Sainte-Marie-du-Lac.
Monique Pelletier, bonjour.
Bonjour Gérald.
Présidente de l'association des amis de l'église de Sainte-Marie-du-Lac. Sainte-Marie-du-Lac, c'est où ?
Alors, on va dire qu'on prend une ligne droite de Saint-Dizier, Vitry-François, et on descend de 10 km en plein milieu et on se trouve au bord du lac.
L'église de Sainte-Marie-du-Lac, pour ceux qui connaissent un peu, il y en a deux ?
Ah, il y en a deux. Alors, celle qui est la plus connue, c'est celle qui a été reconstruite lors de la création du lac. C'est celle qui est dédiée à Saint-Jean-Baptiste et qui est l'église de Nuisement, qui est entièrement en bois. Mais nous, notre église, que nous préservons et à laquelle nous sommes attachés, c'est l'église paroissiale du village de Sainte-Marie. Cette église est dédiée à Marie, l'église de l'Assomption.
Votre association, elle a quel objet ?
Dans un premier temps, c'est faire connaître l'église, le village, mettre en valeur donc l'ensemble du patrimoine, développer aussi des manifestations culturelles, du style exposition, conférences, concerts.
Dans l'actualité, dès la fin de semaine, dès le 28, vous ouvrez les portes de l'église.
Oui, alors à partir de samedi prochain, nous avons une exposition de peinture consacrée aux oiseaux et aux oiseaux locaux, aux oiseaux du lac. Et puis aussi une conférence qui se tiendra le mardi 31. Toujours pareil, sur les oiseaux. C'est un ornithologue de la région, Gérard Rollin, qui va nous parler de la disparition des oiseaux de nos campagnes et de notre région.
L'exposition de peinture, ce sont des peintres locaux ?
Nous avons des privés, bien sûr, qui viennent de Saint-Dizier, qui viennent de la région de Montier-en-Der. Mais nous avons surtout des écoles de peinture, Giffaumont, Vitry-de-François, Saint-Dizier et Vassy. Les 2 écoles de peinture de Vassy. Donc c'est vraiment un caractère local et l'idée c'est d'offrir une carte de visite à l'ensemble de ces artistes. Et nous avons aussi un artiste un petit peu particulier que tout le monde connaît, qui est Jean Chevalier, bien un peintre animalier connu sur la région et qui va nous mettre en place une fresque de 11 mètres de large.
En plus, vous faites connaître, reconnaître des artistes locaux.
Tout à fait. Que ce soit l'ornithologue, qui est Gérard Rollin, ou Jean Chevalier, on est vraiment sur des personnes connues, mais qui ont besoin aussi d'être reconnus de façon plus large, parce que c'est vrai que les visiteurs, c'est pas seulement un public local, c'est aussi beaucoup de touristes. À cette période de l'année, nous avons beaucoup de touristes.
C'est les vacances ?
Oui, et puis la migration des grues attire énormément de personnes qui viennent de nombreuses nationalités. Nous avons beaucoup de Belges, des Néerlandais, des Allemands, des gens qui viennent du sud de la France. Les gens font beaucoup de kilomètres pour voir les grues. Et donc, pour eux, venir voir une exposition, en plus cette année consacrée aux oiseaux, ça va être le point d'orgue de leur visite ici.
Vous nous rappelez les jours, les horaires d'ouverture de cette exposition ?
Alors, nous ouvrons de 10h à 17h. Pourquoi 17h ? C'est très important parce que nous laissons ensuite la possibilité aux visiteurs d'aller voir le coucher des grues sur le lac qui se trouve juste à côté de l'église. Donc 10h-17h, du samedi 28 octobre au mercredi 1er novembre.
Et pour Gérard Rollin ?
Mardi 31 octobre, c'est à 14h30.
Voilà, et il y a une centaine de places dans l'église.
Allez, on se poussant un petit peu, on peut dépasser les 120. Voilà.
Eh bien, Monique Pelletier, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des Amis de l'église de Sainte-Marie-du-Lac.
Eh bien, écoutez, merci encore. Et puis, bienvenue à tous ceux qui voudront nous rendre visite et venir écouter cette conférence qui promet d'être très intéressante.
Des propos recueillis par Gérald Gaillet. L'exposition de peinture sur le thème des oiseaux du lac sera ouverte en l'église Notre-Dame de l'Assomption de Sainte-Marie-du-Lac du 28 octobre au 1er novembre de 10h à 17h. La conférence sur la disparition des oiseaux de nos campagnes aura lieu le 31 octobre à 14h30, toujours à l'église. Gérard Rollin répondra ensuite aux questions du public.
Le 18-19 sur RCF.
Mathieu Mercier, rédacteur en chef de France 3 Champagne-Ardenne, était notre invité ce matin sur RCF France-Ardenne. Tout de suite, on vous propose de retrouver un extrait de l'entretien mené par Jean-Pierre Benoît.
Mathieu Mercier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que depuis quelques semaines, les programmes de France 3 Champagne-Ardenne à Reims ont été modifiés. Quelles sont les modifications les plus importantes ?
Alors, il y a deux modifications importantes. Ce sont les horaires du journal de midi et celui du soir. Donc à midi, ça commence désormais à midi 25, ça s'appelle Ici 12-13. Et en fait, ce journal parle évidemment de l'actualité locale, régionale, mais également de ce qui se passe en France et dans le monde. C'est-à-dire qu'on part vraiment du bout de la rue jusqu'au bout du monde. Et puis le soir, il y a également un nouvel horaire pour le JT, pour le journal Ici 19-20. Eh bien, ça commence à 19h15 pour la partie locale, régionale, et puis on enchaîne tranquillement jusqu'au national et international à 19h45. Et le tout est lancé, si je puis dire, depuis nos studios de Reims.
Ça, c'est la grande innovation, c'est-à-dire que les journalistes des stations régionales lancent les sujets nationaux, voire internationaux.
Exactement, c'est une nouveauté. Avant, il y avait des journaux, évidemment, présentés depuis Paris, depuis le siège de France Télévisions. Et puis là, désormais, c'est régionalisé avec toujours cette partie locale, mais également un regard sur le monde, des reportages que nous lançons et dans lesquels parfois on peut s'inclure, parce que quand on parle d'alerte attentat, quand on parle de Proche-Orient ou autre, il peut y avoir aussi des résonances, des implications au niveau local et régional.
Alors au niveau du journal régional lui-même, il est légèrement décalé puisqu'il est plutôt aux alentours de 19h15, il y a une émission bien sûr avant. Est-ce que vous avez eu déjà des premiers retours? C'est très difficile, mais on sait qu'il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, de téléspectatrices, téléspectateurs de plein de chaînes, ils sont attachés à leur journal régional et leur nouvelle régionale à la télé.
Oui, et nous, on est très attachés à eux, hein, bien évidemment. Alors oui, ils ont été effectivement perturbés, hein, depuis le 4 septembre, depuis le lancement. On voit que les gens s'adaptent, les gens se font un peu au changement d'horaire, mais c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que c'est un gros changement comme il n'y avait pas eu depuis une vingtaine d'années, on va dire. Donc il faut redonner les horaires, hein, 19h15, midi 25, c'est un peu moins précis que midi et 19h. Mais en tout cas, on peut allumer la télé à midi ou à 19h, on trouvera toujours France 3. Vous avez parlé d'une nouvelle émission qui est juste avant le journal le soir, s'appelle On vous répond. C'est une des nouveautés de la rentrée. C'est Valérie Alexandre qui la présente et qui répond à des questions de téléspectateurs sur la vie quotidienne, sur voilà, les pistes cyclables, sur les bonnes initiatives, sur l'environnement, sur l'immobilier, sur tout ce qu'on peut vivre en fait au quotidien en Champagne-Ardenne.
Ça correspond sans doute aussi à un besoin d'avoir quelque chose de concret qui touche à la vie du quotidien.
Oui, c'est ça. Puis en plus, on a en fait un lien, c'est vraiment un trait d'union avec les spectateurs, parce qu'on a un QR code qu'on affiche à l'antenne, à la télé. Il suffit de le scanner maintenant. On a tous l'habitude, on le fait souvent dans différents lieux, sur les panneaux ou au restaurant pour le menu. On scanne le QR code et on accède à un formulaire sur son smartphone sur lequel on peut poser toutes les questions qu'on veut. Et derrière, on y répond avec des experts, avec des gens qui habitent en Champagne-Ardenne et qui maîtrisent le sujet. Donc les questions, elles viennent des téléspectateurs et vous pouvez en poser autant que vous voulez. On essaie d'y répondre le mieux possible.
Alors peut-être que ce n'est pas encore tout à fait dans les cartons, mais on a vu avec le Cabaret Vert, on a vu avec le Festival des Marionnettes à Charleville-Mézières que vous vous impliquiez beaucoup dans la vie locale au cours d'émissions spéciales. Est-ce que dans les projets que vous avez déjà quelque chose en tête pour les prochaines semaines ?
Bien sûr, on va d'abord évidemment commémorer le 11 novembre, qui est une fête importante, une commémoration importante pour le souvenir de la guerre 14-18, pour l'armistice. Donc on sera le 10 novembre prochain à la main de Massy, c'est bien Jean-Pierre, j'en suis sûr, hein, où il y a des tranchées qui sont reconstituées pour comprendre comment le souvenir de la guerre se transmet génération après génération, maintenant que les poilus sont tous évidemment disparus, sont tous morts, et bien comment le souvenir de cette guerre se perpétue. Donc on sera sur place à la main de Massy le 10 novembre, c'est un vendredi, avec une page spéciale. On sera également présent sur les Nuits de Champagne, hein, le festival musical de Troyes, avec des choristes, avec 900 choristes. On sera bien sûr présent toute la semaine donc des vacances de la Toussaint. Et puis, on sera également sur le festival de Montier-en-Der, ce festival consacré à la photo animalière, avec des milliers de visiteurs qui se pressent chaque année. Et on aura également des pages spéciales avant de recommencer, bien sûr, nos JT à l'extérieur. On a pas mal de projets là-dessus pour 2024.
Et ça s'appelait à Jean-Pierre Benoît, 18h51 dans le magazine régional.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
La troupe de théâtre de Didier Noël sera à l'Arzicourt le vendredi 3 novembre à 20h30 à la demande de l'association Passage. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les activités de cet asso créé en février 2019, forte de 80 membres répartis sur 25 communes de la communauté de communes Pertois-Bocage-d'Air. Louisa Flanet, présidente de l'association Passage de Pertois-Bocage-d'Air de Saint-Remy en Bouzemont, Saint-Genès et Hisson, est avec Gérald Gaillet.
Bonjour, aujourd'hui je vous invite à aller du côté de l'Arzicourt pour une manifestation qui aura lieu le 3 novembre, une manifestation qui est organisée par l'association Le Passage du Pertois Bocage et d'Air, une manifestation que vous connaissez bien puisque c'est Didier Noël qui viendra faire son spectacle de théâtre. Alors j'ai près de moi la présidente de l'association Le Passage, Louisa Flanet, bonjour.
Bonjour.
Votre association, elle existe depuis quand ?
Elle existe depuis février 2019.
Elle a été créée comme ça, sur un coup de tête ?
Non, pas du tout. Elle a été créée suite à une charte qui avait été signée entre la Comcom Pertois Bocage d'Air et la MSA. Cette charte a duré 3 ans. Nous avions mis en place, avec des bénévoles, plusieurs thématiques et nous avons voulu poursuivre toutes ces thématiques parce que sinon, s'il n'y avait pas d'association, tout s'arrêtait. Donc le travail de 3 ans servait à plus rien.
Alors quel était ce travail pendant cette charte?
C'était une charte qui avait été faite sur un diagnostic, donc il y avait beaucoup de manques au sein de la communauté de communes. Pour les aînés, il fallait un bien-être, un mieux vivre, donc on avait fait des thématiques, il y avait 5 thématiques, et nous on a voulu poursuivre ces thématiques, c'est-à-dire activité physique, culture, transport, santé et bien-être. Donc on s'est arrangé pour poursuivre avec tous les bénévoles présents à la charte, on a créé cette association.
Cette association, elle existe parce que vous travaillez avec d'autres associations.
Oui, notre but, ce n'est pas de prendre la place des autres associations. Nous travaillons avec les autres associations. Nous travaillons beaucoup avec Famille Rurale. Nous travaillons aussi avec la CEPT, avec la Mutualité Française. Nous faisons des ateliers et nous avons besoin de ces associations pour nous faire vivre.
Et vous organisez, par exemple, d'autres manifestations à titre de votre association, le Passage.
Oui, nous faisons des voyages, des petits voyages d'une journée culturelle. Nous organisons un après-midi dansant. Nous faisons une sortie à la foire de Chalon. Nous avons aussi des pièces de théâtre que nous faisons venir et qu'on organise avec les petits metteurs en scène. Et nous faisons aussi des causeries à thème. Et une qui marche très bien, c'est sur le jazz. Comment est arrivé le jazz, comment il est fait, comment il est compris. Et nous faisons des causeries à thème également.
Alors des causeries qui ont lieu régulièrement ?
Une fois par an, grâce à des communes qui nous prêtent des salles gracieusement, ce qui nous permet de pouvoir aller dans différents villages.
Justement, les communes vous prêtent des salles, mais pour toutes vos activités ?
Oui, pour toutes nos activités, dès qu'on demande à un maire, ils sont toujours soucieux de nous prêter des salles, parce que nous sommes quand même une association qui est sur un territoire de communauté de communes de 25 communes. Donc nous essayons de tourner dans les 25 communes dès qu'il y a un maire qui est susceptible de nous recevoir ou qui veut qu'il y ait une animation dans son village.
Alors vous avez les habitants du village qui viennent aussi, et puis et d'autres habitants des communes qui sont un peu plus éloignées.
Oui. Nous avons déjà nos adhérents qui viennent, qui sont quand même présents. Et quand on fait des manifestations, il y a des personnes qui ne sont pas adhérentes, mais quand on veut remplir un bus, tout le monde est bienvenu. Et nous faisons la gym et la sophrologie depuis qu'il y a eu la charte senior. Donc ça va faire 7 ans qu'on fait des cours de gym et de sophrologie.
Ces cours, ils ont lieu toutes les semaines ?
Alors la gymnastique, elle a lieu de septembre à juin. Et la sophrologie, nous faisons deux sessions de 10 séances. Une session en automne, une session au printemps.
Sur le plan du département de la Marne, malgré que vous soyez situé à Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genès et Isson, voilà, je vous invite à aller voir sur la carte de la Marne où ça se trouve, puisque c'est le village dont le nom est le plus grand de France, voire d'Europe, oui, ça c'est les locaux qui disent ça. Eh bien, Madame la Présidente, vous avez été récompensée à une foire.
Oui, en 2021, nous avons reçu sur la foire de Châlons en septembre le trophée coup de cœur des initiatives sociales et solidaires d'AG2R La Mondiale. Donc nous avons été très fiers d'avoir ce trophée.
Un trophée accompagné d'une enveloppe ?
Oui, d'une enveloppe qui nous a permis de faire différents achats, surtout sur ordinateur, caméra, grand écran. Quand nous avons des causeries à thème, nous nous servons de ce matériel pour avoir une meilleure communication.
Louisa Flanet, vous avez des projets pour votre association Passage ?
Oui, on a un projet qui va être mis en place, mais avec la Comcom, parce que nous ne pourrions pas porter ce projet seul. C'est pour les chemins de randonnée. Nous avions commencé le passage seul à faire un repérage et on avait répertorié tous les chemins de randonnée qui se trouvaient un petit peu dans toute la communauté de communes. Mais je crois que pour que ça soit fait correctement et avec des règles et qu'on n'ait pas de soucis parce qu'il y a des chemins qui passent dans des propriétés privées, d'autres dans des endroits, associations foncières. Donc la communauté de communes a décidé de prendre le projet et des bénévoles de mon association participeront à ce projet.
On va finir donc par ce fameux théâtre avec Digne Noël. Comment vous avez connu cette structure pour venir vous aider ?
Didier Noël avait mis, je crois, une publicité sur l'Union. Et quand on a vu que c'était pas très très onéreux pour nous, on a tout de suite sauté sur l'occasion. Et on ne comprenait pas comment une des personnes pouvait jouer gracieusement pour les associations. Donc on l'a fait venir l'année dernière. Ça s'est très très bien passé. On a eu un très bon rapport avec ce monsieur et sa troupe. Donc cette année, ils renouvellent leur projet de venir dans notre communauté de communes.
Et vous avez déjà des projets avec les bénéfices qui vont être tirés ?
Alors, sur une partie des bénéfices, nous voulons faire un don à l'église de Dronet qui a brûlé malheureusement cet été.
Alors, on rappelle que cette pièce de théâtre, c'est le vendredi 3 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Larzicourt. C'est sur la route du Der et l'entrée est à 10 euros. Quels sont les thèmes qui sont abordés dans votre association ?
Alors nous avons un thème qui s'appelle culture et loisirs, le deuxième santé et bien-être et le troisième transport et mobilité. Et à chaque thème, j'ai un chef de file qui prend tout en main et ça me facilite bien les choses.
Et par exemple, le troisième thème, comment ça se passe sur le terrain ?
Alors sur le terrain, le transport, il avait été mis déjà du temps de la charte senior. Nous avons mis en place le TAD et la mobilité solidaire. La mobilité solidaire, c'est géré par Famille Rurale. Le TAD, c'est géré par la Comcom, c'est le transport à la demande avec un taxi. C'est pour aider les personnes âgées qui n'ont pas de moyens ou qui ne peuvent pas se déplacer pour aller sur différents sites pour les courses ou les hôpitaux ou les rendez-vous médicaux.
Et votre association, on parle toujours des bénévoles, mais ils sont combien ?
Nous avons 80 bénévoles et dans nos 80 bénévoles, nous avons 20 membres actifs, je dirais même très actifs. actifs et c'est très bien pour nous, nous pouvons avancer, leur faire confiance et ils sont toujours prêts à nous aider.
Louisa Flanet, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Passe Âge de Pertois Bocage Eder et que vous étiez accompagnée de votre secrétaire Bernard Duclos. Merci à vous deux.
Propos recueillis par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. La soirée théâtrale avec la troupe de Didier Noël aura lieu donc le 3 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Larzicourt. L'entrée est à 10 euros. Une partie de la recette est destinée à la reconstruction de l'église Notre-Dame de Dronay. C'était Thierry Delis à la mise en onde ce soir. On vous remercie pour votre fidélité. Le magazine régional se poursuit pendant ses vacances de la Toussaint. Rendez-vous demain, mardi 18h10 pour un nouveau numéro en région. Tout de suite, l'information nationale. Bonne soirée.